Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Quelle voix ? Une voix d'acteur qui répondait à la radio au questionnaire Marcel Proust et à d'autres questions posées par l'équipe d'André Gillois, début 1950. Un comédien dont on se souvient surtout de l'interprétation dans le film de Clouzot, Le Corbeau. Ah, le docteur, dans le film de Clouzot. Vous êtes formidable, vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais, vous croyez que le bien c'est la lumière et que l'ombre c'est le mal. Mais où est l'ombre? Où est la lumière? Où est la frontière du mal? Etc, etc. Qui êtes-vous, Pierre Larquet? Première diffusion sur la chaîne nationale le 9 décembre 1950.
Veuillez écouter « Qui êtes-vous ?», une émission d'André Gillois, avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel, le docteur Martin et Jean-Pierre Morfait. Aujourd'hui, « Qui êtes-vous ?», Pierre Larquet. Émission réalisée avec la collaboration d'Alain Liu, Maurice Béard et Gaston Morfait. Montage, Jacques Guinchard.
C'est aujourd'hui à une grande vedette de la scène et de l'écran que je vais demander « Qui êtes-vous ?». Il s'agit de Pierre Larquet. Pierre Larquet, alors qui êtes-vous?
Qui je suis? Eh bien, qui je suis? Je n'aime pas beaucoup me poser cette question, je n'aime pas beaucoup me juger, parce que je sens que je vais trouver tout de suite pas mal de défauts, de sales travers, et que je reproche, enfin, qui me navre chez beaucoup de mes semblables. Alors, je n'aime pas me juger. Je frémis quand je vois un homme s'apprêter à en juger un autre, je ne sais plus quel philosophe, je crois que c'est la Monnaie. Oui, mais enfin, je ne vais pas commencer par me dérober, puisque je suis venu ici pour répondre à vos questions. Je pense que les réponses que je vais vous donner par la suite vous donneront une idée assez précise de l'homme que je suis.
Eh bien, alors commençons. Ouais. Quel est pour vous le comble de la misère?
La misère. Oh. La misère, pour un adulte, c'est souvent douloureux, pénible, évidemment, mais l'adulte, il peut des fois s'adapter, s'habituer plus ou moins. Et puis il sait quelquefois pourquoi il souffre, ça l'aide à souffrir. Si les poilus 14-18, certains n'étaient pas brillants. Mais ils savaient qu'ils étaient là pour une chose très grande, très noble. Mais le comble, le pire, alors, ce qui est terrible, c'est pour cet adulte de ne pouvoir éviter à ses petits, à ses gosses, de ne pouvoir éviter toutes les laideurs de la vie, de ne pas pouvoir tenir ses enfants en dehors de nos démêlés. Et c'est ça le plus triste, voyez-vous, mêler les petits qui ne comprennent pas, eux, pas plus que les animaux, sont des innocents, qui ne savent pas pourquoi ils mangent du rutabaga, pourquoi ils reçoivent des bombes, etc. Voilà.
Où aimeriez-vous vivre?
Nulle part ailleurs qu'en France, voyez-vous. J'ai visité pas mal de pays étrangers, j'ai vu de la beauté, il y en a partout, de l'agrément. Mais je reviens toujours en France avec joie et soulagement, parce qu'en France, on parle français, puis c'est la seule langue que je connaisse, que je parle. Alors, c'est mon pays, vive la France.
Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence?
Au pluriel.
Oui. Ou au singulier, enfin comme
oui.
Vous voulez.
Bah, il n'y en a qu'une. Allez, pour toutes les fautes, allez. Toutes les fautes, à condition qu'aucune de ces fautes ne porte atteinte à l'aise, à la liberté, enfin au prochain, quoi.
Quels sont les héros de romans que vous préférez?
Il y en a beaucoup. Faire un choix de choses. Dans notre livre, vous pensez qu'il y en a tellement. Mais je pense toujours, quelquefois, enfin, avec assez d'attendrissement, à Bas de cuir et œil de faucon. C'est mon enfant, ce sont les premiers émois, ça. Alors, et puis, après est venu, ma foi, je vous dis, il y en a beaucoup. Et Jacques, ce charmant jeune homme, quel pauvre petit. Et puis, aussi, Jacques. Et qu'est-ce qu'il y a encore? D'Artagnan, très bien. D'Artagnan, il n'y a qu'une chose qui me chiffonne chez lui, toujours l'épée à la main, la dague, il est toujours prêt à pourfendre. Ah, oh, puis alors Don Quichotte. Il avait une lance, lui aussi, je sais bien, mais enfin, il est un brave gars, Don Quichotte. Oh, oui.
Quel est votre personnage historique favori?
Écoutez, historique, là aussi, il y en a... Saint-Vincent de Paul. Henri IV. Oh, Henri IV était très bien. Il paraît qu'on la saurait avec un bon coup de jurançon. Et puis alors, Henri IV, on prétend qu'il sentait mauvais. Ça, on n'en sait rien. Ce sont des potins. Et puis enfin, la poule au pot, c'est sympathique. Et puis aussi, son opportunisme. Mon Dieu, Paris vaut bien une messe. Écoutez, pour un chef d'État... meneur de foule, de peuple, de l'opportunisme. C'est pas toujours très noble, d'accord, mais les sujets y trouvent toujours leur compte. Allez.
Vos héroïnes favorites dans la vie réelle?
Les héroïnes, oui, il y en a sûrement. Il y a des femmes qui ont été magnifiques. Je vois assez, c'est peut-être pas une héroïne, mais Mademoiselle Mistinguette me plaît assez à cause de l'exemple qu'elle nous donne à tous, l'exemple d'endurance, de courage, de ferveur, de ténacité. C'est très bien, cette dame est très bien.
Vos héroïnes dans la fiction?
Dans la fiction. Écoutez, moi je pense à la Sainte Vierge, mais est-ce un personnage de fiction ou de vie réelle? La nativité, c'est un peu une légende, mettons que ce soit la fiction. La Sainte Vierge, parce qu'elle a mis au monde un homme qui... Un homme qui n'a cessé de nous dire « aimez-vous les uns les autres ». Quel dommage qu'il ne se soit pas borné à nous dire « tolérez-vous les uns les autres ». Enfin, il a fait comme les médecins, il a demandé beaucoup pour avoir un peu, évidemment.
Votre peintre favori?
Les peintres, ça, je ne suis pas très avancé en peinture, vous savez, j'en suis encore lourd, un petit peu j'aborde le Luxembourg. Et puis enfin, mon initiation est encore trop insuffisante pour apprécier pleinement les peintres modernes, les grandes valeurs, car je suis sûr qu'il y a des grands peintres. Mais j'ai enfin pour deux aquarellistes ravissants. Ce n'est pas des grands noms. Frank Box a été découvert, hélas, très tard, même, je crois après sa mort. Et puis alors Vignal. Vignal, un joli aquarelliste qui a rapporté des aquarelles de l'Espagne, d'Italie, de Syrie et Maroc, de lumière, de soleil, géranium, laurier rose. Voilà.
Et votre musicien favori?
Oh, c'est pareil, manque d'initiation. Les compositeurs modernes, ceux qui font des chansonnettes, ont quelquefois des trouvailles ravissantes, qui me plaisent beaucoup. Alors, j'en ai beaucoup, les favoris. Puis un peu au-dessus, alors... Isoline, messager avec et puis alors tout de suite au-dessus alors Debussy. Mais alors là, quand on aborde ces hauteurs, moi j'y vais sur la pointe des pieds. Je souhaite qu'un jour arriver à éprouver le même ravissement avec Péléas que celui que j'éprouve avec la petite suite, fille aux cheveux de lin, après-midi d'un four, etc. Mais ça viendra, car je suis plein de bonne volonté.
Votre qualité préférée chez l'homme?
La qualité... l'honnêteté, l'ordre et la méthode.
Votre qualité préférée chez la femme?
La méthode, l'ordre et l'honnêteté.
Votre vertu préférée?
La vertu... Si vous voulez... La charité chrétienne, parce que c'est elle qui nous aide à nous rendre le plus supportable pour notre prochain. La charité chrétienne, c'est la politesse, la discrétion et la modestie.
Votre occupation préférée?
Mon métier.
Qu'auriez-vous aimé être?
Acteur.
Quel est l'âge de la vie qui vous semble essentiel?
Il n'y a pas d'âge essentiel, qu'est-ce que vous voulez? Ça dépend des circonstances, mais aussi beaucoup des individus. Des individus, vous avez des gars à 23, 25, 28 ans, ce sont des champions intellectuels, des champions un peu dans tous les domaines. Mais prenons Orson Welles, ça c'est un lapin, c'est un monsieur, les maréchaux de Napoléon, n'est-ce pas? Et puis pour d'autres, la révélation est beaucoup plus tardive, c'est une question d'individus.
Que regretterez-vous le plus en mourant?
Comme tous les miens, Tous les miens, surtout. Et puis la vie et ses luttes. Parce que c'est assez savoureux de gagner un ou deux échelons, même après des années d'efforts. C'est la vie, c'est, même la nôtre, moderne, actuelle, c'est pas mal.
Comment voudriez-vous mourir ?
Oui, très vite. Afin que ça soit pas trop long, un peu pas trop douloureux. Et puis peut-être, je ne sais pas, moi, un peu gâteux, mais sans trop de souffrance physique. Mais ça, c'est du dilettantisme.
Y a-t-il pour vous plus de plaisir à plaire ou à convaincre ou à provoquer ?
Moi, à convaincre, à plaire ou à convaincre.
Plaire, convaincre ou provoquer ?
Provoquer. J'essaie d'abord de convaincre. J'insiste, je m'acharne. Et puis, ma foi, si je n'y arrive pas, eh bien, j'ai une fâcheuse tendance à provoquer. Alors là, provoquer, mais d'une façon sournoise, pas élégante, de l'ironie, c'est méchant de se moquer. Et je le regrette assez vite. Et puis, j'arrive à freiner quand même ce mauvais travers. Oui, parce que, au fond, j'aime bien plaire aussi.
Quelle a été la première émotion de votre vie ?
Oh, j'en ai tellement... Mais oh, il y en a une qui est restée ancrée. J'avais 3 ou 4 ans, la maternelle. La mienne de maternelle. J'avais 3 ou 4 ans et oh, j'ai le souvenir de cet immeuble. Je revois la porte avec un chapiteau comme ça. Et pourtant, on était choyés, on était dans l'hôtel, la maternelle, les sœurs de charité qui nous accueillaient, sans être des mamans, avaient la manière, de manière professionnelle, mais enfin, non. Mais c'était de voir partir ma mère l'hiver, le matin encore sombre, dans la neige, de voir partir ses jupons. Oh, ça me laissait une angoisse douloureuse, vraiment. Et plus tard, à 10 ou 12 ans, il m'arrivait de faire un crochet, de repasser devant cette rue, un besoin morbide peut-être, pour voir si j'éprouverais encore ce sentiment. Et toujours je l'ai éprouvé. Je me demande si à mon âge... Oh, ça doit être bien émoussé maintenant, je pourrais pas... Et j'ai oublié beaucoup de noms de rues à Bordeaux, mais je me rappellerai toujours le nom de la rue Barène. Barène. Oh, c'est... Même le nom de la rue m'impressionne.
À quel âge avez-vous vu pour la première fois un cadavre et quelle a été votre réaction ?
Quel âge ? J'étais très jeune, j'ai pas vu un cadavre, mais des cadavres. Pas tous ensemble. J'étais enfant de chœur dans une paroisse importante de Bordeaux et j'accompagnais les prêtres qui allaient porter l'extrême onction. Eh bien, il m'est arrivé quelquefois de voir des malades passer de vie à trépas comme ça. J'assistais à ça très calme, avec un œil curieux pour voir comment on rendait le dernier soupir. Avec vous savez, le calme professionnel. D'un vieux croque-mort blanchi, catafalque, oui. Et bien, 5 minutes après, je jouais aux billes avec les copains. Ah, mais 15 ans après, alors, j'ai été vraiment remué par les premiers cadavres, en 14-18. Non, mais ça, c'était moche.
Pourriez-vous tout quitter, famille, situation, habitude, pour recommencer votre vie ?
Recommencer ma vie, je me comporterai de la même façon. Non, je quitterai rien du tout, je referai la même chose. Alors,
bon. Aimez-vous la vie dangereuse ?
Ah non, oh non, oh là là, oh pas du tout. J'ai été très lent à m'habituer aux arrivées. Souvent, j'ai empoisonné mes camarades au fond, ils ont dit, vieux, c'est un départ. Mais oui, c'est un départ, oui. Et je savais très bien que c'était des arrivées de 240, 300. Oh, non, pas.
Un bonheur vous paraît-il plus grand s'il est public ou s'il est caché ?
Un bonheur public... Oui, c'est grisant, parbleu, d'avoir un grand bonheur. Mais un bonheur intime, sans témoins, ou avec peu de témoins parmi les siens, c'est pas désagréable.
L'élimination d'un adversaire vous paraît-elle une opération nécessaire ou vous procure-t-elle un plaisir ?
Eh bien, non, jamais. À aucun moment, je n'ai été heureux de voir éliminer un adversaire. Il m'est arrivé quelquefois... d'être engagé dans des compétitions, d'en sortir avec honneur. Ma joie a toujours été gâtée par la déception qu'éprouvaient les copains, les concurrents. Et ça, c'est un peu fat ce que je vous dis là, mais je suis d'autant plus à l'aise pour vous le déclarer que j'ai tant d'autres sales défauts, vous savez, que je peux bien avoir cette qualité-là.
Que feriez-vous si on vous accordait 3 actes de puissance absolue ?
Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Oh, ça, c'est un conte de fées alors. Bon, eh ben, le conte de fées, allons-y. D'abord, voilà, essayez. Oh, ça va être banal tout ce que je vais vous dire, et puis oh, ce sont des lieux communs, tout le monde répète ça. Essayez de faire descendre le prix de la vie au niveau des salaires, ou alors monter les salaires au niveau du prix de la vie, et puis alors en même temps, permettre au ministre des Finances de boucler le budget en deux coups de cuillère à peau. On est en plein conte de fées, je vous dis. Et puis alors voilà, non, doter tous les mômes, tous les gosses, là, même le plus déshérité, d'une baignoire. C'est-à-dire une baignoire, enfin tout ce que cela représente. N'est-ce pas, de vie décente, comme on dit, de vie non pas confortable, puisque c'est confortable, hélas, ce sera toujours malheur aux pauvres, pour en revenir à ce pauvre monsieur Labenet, le révolutionnaire, mais enfin, de vie normale, quoi. Et puis alors, pour la maman, un petit frigidaire, une petite glacière, n'est-ce pas, et puis le papa, je sais pas moi, une petite 2, 3 ou 4 chevaux pour aller au boulot, pour remplacer le biclos, tout ça. Et puis un deuxième acte, alors, de vie. De puissance, enfin, deuxième acte, comment dites-vous,
De puissance absolue.
Alors, deuxièmement, permettre à ces gens-là, après avoir obtenu ces améliorations sociales, qui ne sont pas terribles, leur permettre d'en jouir, au moins pendant une génération, pendant une cinquantaine d'années, sans rutabaga, sans bon d'essence, tout. Et troisièmement, enfin, voilà, pouvoir signaler, apprendre, enfin, indiquer aux grands. Les grands, pourquoi grands, mon Dieu, par le nombre et la force, il n'y a pas de quoi se vanter. Enfin, dire aux grands, changer de système, trouver d'autres formules que celles à laquelle ils reviennent toujours depuis des millénaires, pour faire, comme ils disent les grands, le bonheur des hommes.
Dans quelle époque auriez-vous préféré vivre en admettant que votre condition vous ait permis d'y participer suffisamment?
Dans quelle époque? Ça a toujours été pareil. Le printemps a toujours eu les mêmes promesses. Il y a 10 000 ans, nous avons toujours été les esclaves des femmes, même sous les rois fainéants. Le sourire des gosses a toujours été aussi émouvant, aussi pur au Moyen-Âge que fallait, malgré les gros titres à la une qui nous annoncent toujours de nouvelles épopées imminentes.
Auriez-vous aimé faire un métier manuel, et lequel?
Oui, il y en a deux très beaux. Ébéniste ou jardinier, jardinier ou ébéniste, c'est passionnant.
À quel âge avez-vous senti que vous quittiez l'enfance?
Moi, je me demande si toutes les réponses que je viens de vous donner n'indiquent pas clairement que je n'ai pas encore quitté l'enfance.
Eh bien, messieurs, avez-vous d'autres questions à poser à Pierre Larquet ou des commentaires à faire sur ce qu'il vient de dire?
Ne soyez pas trop sévère,
trop
dur, hein, comme examinateur, parce que je suis dans les petits souliers depuis un moment. Là.
Je commencerai par dire qu'il y a une seule réponse de Pierre Larquet qui me paraît surprenante, étant donné le caractère qui se dégage de cet interrogatoire. Ce n'est point tant son Henri IV comme personnage favori, car Larquet est bien français, mais c'est cet opportunisme. C'est cet opportunisme qu'il admire tant, alors qu'il y a chez lui des côtés d'enfance, comme il signale lui-même, sans forfanterie, oui. Et qui semblerait conduire à un peu plus d'intransigeance et de pureté.
Et de pureté, oui, c'est pas très pur, je vous ai dit, c'est pas très noble, l'opportunisme.
Qu'est-ce que vous admirez? Vous admirez le malin?
Ah non, je crois qu'il admire celui qui ne fait pas de peine aux gens et qui ne leur demande pas des efforts trop grands.
C'est ça. Mais j'admire le malin Henri IV. Évidemment, pour lui, il souffre peut-être de renoncer à son panache. Mais l'intérêt de ses sujets demande, tire un bénéfice, peut-être quelquefois, d'un certain réalisme, d'un certain opportunisme.
Docteur,
je rappelle à M. Larquet qu'un roi est le père de son peuple.
Oui.
Et que dans les réponses que vous avez faites, si l'image de votre mère apparaît, nous n'avons, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas aperçu le profil de votre père.
Oh, quel brave homme, mon père. Un pauvre travailleur qui s'est tué à la tâche. Un homme parfait. Oh oui, un brave ouvrier, mais chic et patin.
Vous aviez quel âge quand il est mort?
Je rentrais de Madagascar pour assister à ses derniers moments usés par le travail. J'avais quel âge? 23 ans, oui.
23 ans. Oui. Et vous avez donc assisté à ces derniers moments?
Ah oui. Bon.
Et cela a dû être évidemment plus émouvant que les derniers moments de toutes les auxquels vous aviez assisté si souvent dans votre enfance.
Ah oui, parce que dans mon enfance, j'étais très calme et très équilibré. Je n'ai jamais bouleversé, tandis que mon pauvre papa, c'était très pénible.
Dites-moi, Pierre Larquet, vous nous avez dit en commençant et en finissant et à plusieurs reprises que vous étiez un être abominable, plein de défauts, etc.
Ah, des qualités aussi.
Non, alors vous nous avez parlé un peu de vos qualités, oui. Mais ces défauts sont restés dans le vague. Alors,
oui, ça, on aimerait bien les connaître, oui. Les défauts.
Eh bien, au cours des réponses que je vous ai faites, j'en ai envisagé, effleuré quelques-unes. Par exemple, cette tendance chez moi à me moquer quand je ne peux pas dominer l'adversaire, par la bande, là, sournoisement, lui envoyer des piques, des moqueries, de l'ironie. Ça, c'est un très vilain défaut. Et puis, alors... De manquer de courage devant le danger, c'est pas très beau non plus. Je sais pas, moi, il y en a d'autres. Mmh. Je suis gourmand, j'aime bien un bon coup de pinard. Est-ce un très vilain défaut, ce nom?
Non, je ne crois pas.
Quand ça va à l'excès, il faut faire attention. Hein. Oui, puis les défauts que nous avons tous, descendant un peu en nous-mêmes les uns les autres.
Est-ce que vous êtes colère?
Oh, par moment. Oh, ça fume. Vous savez, quand l'agneau se fâche, et alors, colère idiote. Ou alors, je ne m'appartiens plus, je dis des âneries, je perds pied, et je suis stupide, alors.
N'est-ce pas, moi, je dois dire qu'en vous voyant à l'écran, si gentil, je me suis souvent dit, comme il doit être méchant chez lui, il faut bien que ça se contrebalance.
Mais oui, parle-là, si ma femme... entend ça, elle va dire « Oh, comme ce monsieur a raison. » Oui, mais ça ne dure pas. Et alors, c'est comme ça me narre après. Oh, après, c'est très mauvais, c'est très désagréable.
Jean-Pierre Morfait.
Dans l'ordre des attitudes, tout à l'heure, vous avez d'abord classé « convaincre », puis « provoquer », et vous avez donné, enfin, un petit clin d'œil complice au mot « plaire ». Est-ce que vous ne pensez pas que l'émotion est également un moyen de plaire?
L'émotion
L'attitude émouvante, l'attitude généreuse.
Est un moyen de plaire. Oui. Oh, c'est possible, ça dépend des gens devant lesquels vous êtes ému. Peut-être que ça les laisse froid. Certains plus sensibles, ils sont sensibles. Peut-être, oui. Ah oui, l'émotion.
Et est-ce que, d'une façon générale, l'attitude généreuse et sensible de votre personnage n'est pas, peut-être, un moyen de plaire?
Je ne crois pas.
Ah, c'est
du
pas
tout.
Un moyen chez moi, je ne l'emploie pas comme moyen.
C'est une accusation moi. Terrible.
Je,
hein.
crois plutôt non, que chez M. Larquet, plaire est un moyen d'émouvoir et de s'émouvoir. Je dirais plutôt l'inverse.
Est-ce que je le cherche? Je ne le crois pas. Ça vient peut-être tout naturellement. Tant mieux, puisque je bénéficie de la sympathie de mon prochain, d'autrui, grâce à cette nature. J'ai été gâté peut-être par la nature de ce côté-là. Bon, alors. Oui. Oui.
Je voulais demander quelques éclaircissements presque religieux à Pierre Larquet, étant donné que toute sa personnalité me paraît dominée par une sorte de christianisme qui n'a perdu du christianisme que l'intransigeance et le côté militant, et qui se voile d'une sorte de grande ombre de résignation qui n'est pas du tout d'ailleurs hétérodoxe, mais qui est au contraire assez émouvante.
Oui.
Vous me paraissez un chrétien résigné.
Un chrétien résigné.
Aimez-vous les uns les autres? Vous demandez beaucoup pour en avoir peu, n'est-ce pas? Voilà votre formule qui m'a bien frappé.
Chrétien, je suis un athée, et je le dis.
Vous croyez à la survie?
Hélas, non. Et j'en suis navré parce que, puisqu'élevé dans les robes, je vais dire les robes, les soutanes des prêtres et des religieux, voyez, entre au séminaire, la trappe, tout ça. C'est en 14-18 que j'ai été ébranlé un jour, en deux mots, pour parler. En 16 ou 17, oui, en 16, 15 ou 16, j'ai lu sur un journal, Monseigneur Hartmann, évêque de Cologne, je disais à la classe 16, allez mes enfants, c'est pour Dieu, c'est pour la patrie. Monseigneur Dubois, je crois, à Paris, a dit à la classe 16, allez mes enfants, c'est pour Dieu, c'est pour la patrie. Le soir, du coup, on était à Proyard dans la Somme, là-bas, j'avais à côté de moi comme camarade de paille, de machin, dans le gourbi, l'abbé Laurent. Que je salue s'il est toujours vivant au bout de 30 ans, l'abbé Laurent, professeur de théologie au Puy, à qui j'ai posé cette question, j'aurais pas dû. Monsieur l'abbé, j'ai été ébranlé cet après-midi, voilà ce que j'ai lu. Maintenant, vous pensez, les raisonnements de ces gens-là sont très forts. Puis il m'a dit, maintenant parlons autre chose. Il a fait sa prière, il a pris sa pipe et c'était fini. Eh bien, à ce moment-là, oh que ma foi, hélas, est partie en lambeaux. une flûte. Il y en a qui se trompe ou qui ment de ces deux grands prélats.
Enfin, votre foi est partie, il vous est resté la morale...
Oui, il est resté tout le bain spirituel du christianisme, c'est incontestable.
Est toujours là.
Ah, moi, je trouvais que la déclaration sur la charité où il n'y a pas de Dieu était une déclaration très peu chrétienne. Je n'avais pas du tout eu la même réaction que Clavel.
Mais non, je crois que Pierre Larquet est chrétien au sens où Peggy et Bernanos prétendent que les Français athées sont chrétiens. Voilà exactement ce que je voulais dire. Et j'ai dit que Pierre Larquet appartient à une France qui, selon la façon dont on la considère et peut-être la façon dont quelqu'un la prendra, car il est terriblement français, peut-être celle de Courteline ou celle de Peggy et de Bernanos.
Vous êtes un des hommes, un des comédiens qui ont peut-être interprété le plus grand nombre de rôles, je crois.
Oh, je ne sais pas.
Enfin, je n'ai pas fait de statistiques, mais enfin,
supposons, oui.
Vous avez joué énormément de pièces et de films.
Et de personnages, oui.
Est-ce que parmi ces personnages, il y en a quelqu'un qui vous est particulièrement attaché, auquel vous...
Oui, ah oui, au théâtre. Au théâtre, interpréter Topaz, c'est passionnant. Oh, ce texte en or. Et puis alors, le classique, que c'est agréable de jouer. Oui, tous les personnages, la plupart, enfin, les grandes pièces de Molière, oh, c'est magnifique.
Et le personnage de Topaz vous a particulièrement...
Ah oui, très intéressant, c'est très bien. C'est une fripouille au quatrième acte, mais c'est un si brave homme, si naïf, si pur et si candide au premier. Mais cette ascension, cette transformation est pénible. Mais c'est joli, j'ai eu beau théâtre, le personnage est splendide, fatigant, mais bien.
Mais que pensez-vous justement de cette ascension de Topaz? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que ce que vous regretteriez justement dans la vie, c'était ce genre d'ascension et de gagner quelques degrés
le
succès.
Topaz, j'allais dire le fort, le créateur, mais Topaz a gravi les échelons 4 à 4, lui, parbleu. Alors, c'est encore plus grisant une montée comme ça, la verticale. Mais même une petite montée par échelon comme ça, c'est bien agréable aussi. Conquérir par petits bouts, c'est très bien aussi.
Je suis content que nous soyons passés de Don Quichotte à Topaz.
Non mais Larquet, entendez, voilà. Conquérir par petits mots, par le travail et la plus grande honnêteté dans
le
travail.
Oui. Ah d'accord, hélas.
Ah non mais je voulais justement...
J'ai jamais eu de traction avant, devant les banques.
Non mais je reviens à Topaz, parce que il y a aussi dans Topaz une progression,
oui.
Naturellement, qui est teintée de crapulerie.
Oui.
Mais alors, cette ambition
oui.
de Topaz,
oui.
comment réagissez-vous à elle?
Oh, vous savez, moi je ne l'envie pas, c'est trop brutal, c'est trop rude, ça. Je suis pas pour de la manière forte et violente, et puis c'est compliqué, et puis c'est dangereux. Oh, je n'aime pas le danger.
Vous revenez beaucoup, mais enfin, est-ce qu'on peut vous demander que... Je parie que votre attitude devant le danger fut exactement celle d'un homme qui ne craignait pas le danger.
Et je ne pouvais pas faire autrement, il fallait rester là. Oh oui, non, mais je ne...
Vous n'avez pas donné de symptômes de...
Je ne suis pas un forcené de l'héroïsme.
Docteur. En tout cas, vous avez la simplicité de l'avouer.
La franchise, enfin.
Je voulais vous demander, d'après, si en rapport avec ce que vous nous avez dit concernant votre enfance et le côté modeste de l'activité de votre père, si vous pouvez nous donner quelques précisions concernant l'époque où vous avez commencé précisément à monter à la verticale. Et comment vous avez été amené à choisir cette profession qui vous a permis de faire une ascension spectaculaire?
Oh, ça n'a jamais été à la verticale. Ça a été très lent, par une montée très très lente, à des pourcentages très faibles, vous savez. Oh oui, ça porte sur, je ne sais pas, une quarantaine d'années. Voyez, en 40 ans, je ne suis pas allé très haut encore. Je dis encore, comme si j'avais l'éternité devant moi. Enfin, je ne suis pas très très haut. Et j'ai mis 30 ou 40 ans pour atteindre ce degré-là.
Comment avez-vous été amené à devenir artiste?
Artiste? J'ai commencé d'abord par l'église. Ça a tout loupé. Mes parents, trop modestes, n'avaient pas les moyens de réunir le trousseau, pourtant ce trousseau bien modeste du séminaire. Puis j'ai tenté certains ordres enseignants, les petits frères Marie, les maristes. Et puis ça aussi, ça a raté. Je sais pas. Et alors, à 18 ans, j'ai dit, l'armée. Tiens, l'armée, les colonies, Fachoda, Marchand. Tu es parti. Alors, 5 ans, infanterie coloniale, Madagascar. Mais là aussi, je suis tombé sur un bec, puisque c'était au lendemain des guerres de Chine, de 1900. Les cadres étaient embouteillés. Pour passer sergent, il fallait 10 ans de service. Or, pour aller à Saint-Mexant, car je voulais être officier, pour ser un grand officier. Général, je voulais au moins finir général. Et il fallait 2 ans de grade de sous-officier. Je voyais ça 10 ans, 12 ans après, j'ai abandonné. Et alors le théâtre a commencé à me travailler. L'église, l'armée, le théâtre, c'est un peu la même chose. C'est un grand mariage à Saint-Pierre de Chaillot, ou le défilé du 14 juillet, ou le pastoral allait monter par Gémier au cirque, ça provoque la même émotion. C'est très bien, les trois.
Il y avait tout de même au départ une certaine ambition de votre part.
Ah, j'ai été toujours pas mal ambitieux. Oh, ambitieux, non. L'ambition de faire le travail, m'intéresser à mon boulot, à ma tâche. Même les tâches les plus ingrates, on finit par y découvrir quelque chose de passionnant.
Mais pourtant, Larquet, je m'excuse de vous interrompre, je me rappelle brusquement une anecdote que vous m'avez racontée autrefois.
Oui.
Lorsque vous jouiez Topaz.
Oui.
Un petit rôle dans Topaz.
Ah oui, Tommy, à la création. J'ai parlé de Topaz, le rôle de
j'entends
Topaz,
bien, j'entends
accidentellement, pour que je n'étais qu'une doublure.
Mais à l'époque où vous jouiez un petit rôle, où vous n'étiez pas encore du tout connu, vous quittiez le théâtre des variétés pour aller au Faubourg Saint-Antoine faire de l'ébéniste.
Toujours l'ébéniste.
Donc, à ce moment-là, vous regrettiez, semble-t-il, d'avoir abandonné un métier qui vous aurait... plus davantage.
Ah non, non du tout. Non, c'était pour occuper mes loisirs. Moi, les courses, ça ne me dit rien. Le café, le Tamise me laissait 24 heures par jour. Je travaillais un quart d'heure tous les soirs pendant 3 ans. Que faire tout le reste de la journée? Non, pas de la soirée, puisque ça se passait en belote avec Marcel Vallée, tous les camarades. J'étais au premier acte et à la fin du quatrième. Alors j'avais 2 heures et demie de loisirs. Bon, mais dans la journée, quoi faire de toutes ces journées-là? Eh bien, j'avais fait la connaissance de braves gars au Faubourg Saint-Antoine, dans les immeubles industriels. Monsieur Poirier, c'est des fois qu'il entende. Je le salue, puis son petit gosse, le petit Pierrot, Madame Poirier. Rue des immeubles industriels, un artisan merveilleux. Oh, quel homme adroit. Il travaillait le bois de rose, le bois, la marante, tout ça. Et puis alors, il était installé petitement, mais enfin, avec ce qu'il fallait, des outils. Ça m'a plu, parce que j'étais allé chez lui pour lui faire une commande de meubles que j'avais vu, enfin une petite bricole que j'avais vue à la foire de Paris, qui me plaisait beaucoup. Et puis, une fois chez lui, il m'a dit, tenez, déjeuner avec nous, là, en toute simplicité, en famille, sur l'établi, d'accord. Et je suis resté là deux ans et demi à travailler le bois, par plaisir, par passion. Mais c'est pas parce que je regrettais ce métier d'ébéniste, c'était pour combler des loisirs, combler le vide de mes journées. C'est tout. Oh oui, parce que j'adore mon métier de comédien.
Et puis enfin, pour combler le vide de vos journées d'une manière un peu particulière, car si vous aimiez faire l'ébéniste, c'est que vous y aviez une certaine satisfaction sensuelle.
Ah, sensuelle, exactement, sensuelle. Ah oui. Et je continue parce qu'à Maison Lafitte, le jardin où l'ébéniste, enfin le bricolage, ça a un nom, c'est le bricolage. J'aime bien réussir quelque chose. Je suis maladroit parce que je n'ai jamais appris ces métiers-là. Je fais des gaffes, des bêtises, mais j'y arrive. J'observe et puis je m'en sors. Oui,
bon, revenons-en, si vous voulez, à vos défauts, puisque ce sont ceux que vous avez mis en avant tout de suite, et que vous avez reconnu, ce n'est pas un grand défaut, que vous aviez été ambitieux. Est-ce que vous avez été quelquefois révolté? Tant est que ce soit un défaut.
Je le suis tous les jours. Oh, je le suis tous les jours par... je ne peux pas dire l'incompétence, parce que tous les hommes ne sont pas dans leur right place, on dit. Hein, Mais enfin, la négligence, le laisser-aller, l'à peu près, le backlash, manque d'amour
bon, alors,
pour ce qu'on fait.
Vous êtes un révolté, nous en sommes convaincus.
N'est-ce pas?
Mais alors, Larquet, une question. Dans tout votre comportement, dans votre façon de parler, il y a ce phénomène très simple. Vous commencez dans la révolte, puis brusquement, vous vous arrêtez et vous finissez dans l'indulgence.
Bon. Oui.
C'est évidemment volontaire, vous êtes arrivé probablement à cela.
Oui.
Comment?
Parce que, je vais vous dire, chez moi, il y a un peu de l'Alceste, mais beaucoup de Philinte. Alceste et sa rigueur a raison. J'entends que l'on soit homme et qu'en toute rencontre, etc. Mais Philinte a encore plus raison quand il dit « Je prends tout doucement les hommes comme ils sont, j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. » Et là, vous voyez, Molière a raison des deux côtés. Et c'est ça qui est beau, cette opposition.
Philinte est un opportuniste.
Non, Philinte n'est pas un opportuniste.
Oh, c'est de tous les temps, cet opportunisme-là, cette philosophie tolérante, il faut la recommander à toutes les époques et à tous les années.
Mais s'il y avait eu un jour une vraie révolte au Faubourg Saint-Antoine pendant que vous étiez en train de faire de l'ébénisterie, je suis persuadé que vous en auriez été, malgré les départs et les arrivées de coups.
Aïe, 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 alors ça, je me le demande.
Un siècle plus tôt, je crois.
Franchement. Et puis alors, si j'avais 30 ans, mon âge, on est un petit peu timoré à mon âge, vous savez.
Comment fait le Faubourg Saint-Antoine quand vous
étiez en esprit. Hein,
vous étiez plus jeune quand vous alliez Faubourg Saint-Antoine.
Oh, mais c'était calme et serein, le Faubourg, à ce moment-là.
Mais ça n'évoquait pas pour vous le grand souvenir révolutionnaire.
Non, du tout, aucun moment.
Non, vous travailliez le bois.
Oui,
mais je crois que chez les révolutionnaires du Faubourg Saint-Antoine, rien n'évoquait la moindre idée ni le moindre souvenir révolutionnaire. Leur caractéristique même.
Oui, justement, non. Très vrai. Hein? Vous ne croyez pas?
Je crois au contraire qu'ils pensaient beaucoup à la révolution et aux traditions révolutionnaires.
En faisant très bien leur travail,
oui.
En soignant le boulot. Oh oui.
Docteur? Je crois qu'il est indispensable, si on veut comprendre le comportement actuel de M. Larquet et ce mélange d'Alceste et de Philinte, de révolte et d'incarcération de ses sentiments de révolte, il faut se rapporter à son éducation, car... Au séminaire, avez-vous été au séminaire?
Ah non, je n'ai pas, non, mais c'était bien au bord.
C'était bien au bord.
Mais oui,
vous avez été enfant de cœur,
justement, et tous les enseignements élevés par des prêtres et des religieux. Alors j'avais une formation religieuse.
On peut dire, comme il a dit qu'il n'avait pas quitté l'enfance, on peut considérer qu'il est resté enfant de cœur.
Et qu'il continue à avoir envie de se révolter contre ça, c'est-à-dire vouloir être libre.
Oui, c'est ça.
Il a subi une certaine contrainte. Il a voulu se révolter contre cette contrainte, mais il ne pouvait pas.
Je ne crois pas que vous ayez voulu vous révolter contre les contraintes que vous éprouviez étant enfant de cœur. Je crois que précisément, Larquet disait tout à l'heure qu'il parlait de l'Église, de l'armée. Je crois que le côté des traditions, des pompes et des rites n'est pas exactement ce qu'il a révolté. Ce qu'il a révolté, c'est l'injustice, c'est l'abus de pouvoir, c'est la négligence.
C'est ça.
Je crois que c'est un révolté au nom de la tradition, Larquet.
Oui, c'est ça. Puis des choses bien faites et faites honnêtement et loyalement, oui.
Je vous dis qu'il est français.
Peut-être.
C'est sans doute ce qui fait son succès auprès de tant de gens qui se reconnaissent en lui. Mais le problème plus profond qui pourrait se poser, et qui se pose pour tous les comédiens, serait de savoir dans quelle mesure Larquet joue son personnage, dans quelle mesure il a créé peu à peu un type avec lequel il s'est confondu, dans quelle mesure au contraire les rôles qu'on lui donne ont eu sur lui une influence, etc. Je crois que la clé nous en est donnée par Larquet lui-même, et parce qu'il nous a dit de l'opportunisme. Il a prononcé ce mot, un peu péjoratif, par humilité, pour ne pas dire tolérance. Il morigène le monde, mais il l'accepte. Peut-être, en perdant la foi, a-t-il perdu l'amour qu'il était tout prêt à avoir pour son prochain. Il le réserve aux humbles, aux petits, aux innocents, et il ne se range pas lui-même parmi ceux-là. Il est un homme comme les autres. Il le sait, c'est pour cela qu'il nous touche. Il nous a dit qu'il était à la fois Alceste et Philinte, comme tout le monde. Mais s'il aime Don Quichotte, il a oublié de nous parler de Sancho Panza. Et il tient un peu des deux également. Oui, vraiment, il est très français.
C'était « Qui êtes-vous, Pierre Larquet ?», une émission d'André Gillois avec Maurice Clavel, Emmanuel Berle, le docteur Martin et Jean-Pierre Morfay. émission diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 9 décembre 1950, et émission que vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».